Radio G 101.5 FM. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Radio G, c'est Quasar on the air, la deuxième de la saison. On vous accueille, on est heureux, on a les masques, sans doute comme vous, mais pas à la maison, mais nous on les a dans le studio. C'est pour ça que le son est peut-être un petit peu différent des autres années, mais finalement on est heureux de rester avec vous et de pouvoir vous rencontrer de façon bimensuelle sur les ondes de Radio G. Alors aujourd'hui, une émission qui va être placée sous le signe des invités, au fur et à mesure qu'ils arriveront, s'ils veulent bien arriver, mais déjà les premiers sont là, et nous aurons des invités également qui nous retrouveront directement via le téléphone, par les temps qui courent, c'est plus facile. Nous ferons bien sûr le point sur l'agenda de Quasar en ce mois à venir, et puis nous contacterons aussi Julien pour parler des people, c'est nouveau, avec cette rubrique qui nous rejoint. Et puis évidemment, actualité oblige, nous passerons par la case Mylène Farmer et puis nos invités qui sont arrivés, JG Photographie et Anto Flytrap et un de leurs modèles. Ils viendront nous parler de leur expo Nu et Paradoxe actuellement à l'Entre-deux à Angers. Et puis nous essaierons de contacter aussi Sophie Salacrou qui elle est la présidente du centre LGBT de La Roche-sur-Yon. Et puis Gaël Massé devrait nous rejoindre également et nous ferons également un moment donné, un hommage, mais un hommage spécial à Juliette Gréco avec un journaliste qui s'appelle Xavier Hérault et qui nous rejoindra tout à l'heure au téléphone. Alors c'est une tradition, vous savez, on jette un petit coup d'œil déjà sur l'agenda quand on est ensemble au tout début d'émission, de façon à pouvoir se repérer dans le temps. Alors dans les dates qui arrivent maintenant, eh bien samedi prochain à 17h, vous savez que c'est la permanence dans les locaux de Quasar à partir de 17h et ce pendant 2h. Et puis il y aura des réunions aussi cette fin de mois pour parler Pride éventuellement. Point d'interrogation, puisqu'elle a été reportée à Angers. Est-ce que nous l'organiserons? Est-ce que nous l'annulerons définitivement? Point d'interrogation. Et puis le mercredi 30, eh bien, le conseil d'administration de Quasar se réunira à 19h. Et puis au mois d'octobre, eh bien, tous les samedis, vous le savez, il y a la fameuse conviviale de 17h à 19h. Et puis un temps tout nouveau qui va se créer, qui est le temps que nous avons appelé transparent le lundi 12. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Et également la Transat, la troisième édition déjà, le samedi 10 de 15h à 17h30. Voilà pour ce qui est, et puis ben, c'est l'occasion tout de suite d'entrer dans le vif du temps que nous vivons ici dans Quasar on the air avec nos invités. C'est une exposition qui nous réunit, mais c'est le travail de deux artistes qui sont là aujourd'hui. Bonjour à vous les garçons.
Bonjour.
Alors, dans l'ordre d'apparition, de ma droite vers ma gauche, JG Photographie, salut.
Bonjour.
Et Anthony Flytrap.
Bonjour.
Alors, plus près du micro, si tu veux bien. Voilà, parce que tu es timide, je sais, mais oui, ça va venir. C'est ça. Et puis, nous avez aussi gentiment amené sous le bras un de vos modèles. Et alors, qui est-il, ce modèle?
Je m'appelle Sébastien.
Ah bah, en plus, tu as une voix de radio, magnifique. Tu y as pensé un jour, non?
Non.
Mais bah, tu vois, ça commence comme ça, en fait. Messieurs, bonjour, donc.
Bonjour.
Et alors, dites-moi tout. Votre métier est d'être photographe ou c'est une passion, en fait, que vous exercez l'un et l'autre?
Alors, ce n'est pas notre premier métier, hein. On, on,
exercent tous les deux une autre profession, mais nous sommes aussi photographes. Alors en ce qui me concerne, je suis aussi déclaré comme artiste photographe, ce qui me permet d'avoir un numéro de SIRET, de pouvoir vendre des photos, de pouvoir faire des shootings privés, etc. Mais ce n'est pas mon activité principale.
Et toi, Anthony ?
Eh ben moi, c'est circuit amateur. Ce n'est pas non plus mon métier principal.
D'accord.
Moi, ça reste vraiment une passion et un gros hobby qui prend beaucoup de place.
Et alors, tout ça a commencé quand, cette aventure, messieurs, pour vous ?
Alors, en ce qui me concerne, la photo de nu a commencé il y a 7-8 ans, en fait. Hein, donc, je suis venu au nu par hasard.
Hein, d'accord.
Puisque je faisais de la photo déjà et je faisais beaucoup de nature morte, puis après des paysages. Et puis un jour, un ami m'a demandé de le prendre en photo. Alors c'était de la photo habillée hein, au
oui.
départ.
Mmh.
Et puis je me suis pris au jeu, j'ai fait du portrait. Et puis petit à petit, en regardant un petit peu mes photographes préférés, en particulier un de mes photographes vraiment fétiche qui est Robert Mapplethorpe,
oui.
Je me suis dit pourquoi pas. Passer au nu masculin et c'est comme ça que c'est venu.
Et toi, en tour fly trap ?
Eh ben, on est sur un 4 ou 5 ans, je ne me rappelle jamais. J'ai commencé avec Gigi Hart, du coup, comme modèle.
Oui. Ah oui, comme modèle,
oui.
toi.
Ouais.
Donc tu es passé
ouais.
par la case modèle oui. d'abord et puis tu t'es pris au jeu ensuite.
Tout à fait.
D'accord.
J'ai commencé comme ça et puis de fil en aiguille, je me suis mis à faire les deux.
D'accord.
Et
okay.
Je continue les deux.
Et donc, c'est de ce moment-là que tu as effectivement... Mais tu avais des notions déjà de photographie
du
ou
tout.
Pas
et du j'en tout. Ai toujours aucune. C'est très instinctif.
Dit-il.
Ah non, mais
très
ça.
Honnêtement.
Je reste dans l'instinctif.
Et toi, JG Photographie, tu as des notions, je suppose.
Alors, j'ai un peu de notions, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on pratique un peu tous les deux la photo de la même manière. C'est-à-dire qu'on y va effectivement à l'instinct et à la vision qu'on a d'une photo. C'est-à-dire que quel que soit l'appareil photo, quelle que soit la technique qu'on a, ce qui est important, c'est ce qu'on veut transmettre et c'est l'objectif de la photo.
Oui.
C'est vraiment ça qui est le plus important, parce qu'on peut avoir effectivement des notions techniques et maîtriser à la perfection une technique. Si la photo ne veut rien dire, elle va rester fade, même si la technique est parfaitement maîtrisée.
D'accord.
Mais alors... Nous, notre but, c'est vraiment de vouloir dire quelque chose avec la photo.
C'est ce que vous exprimez à travers les œuvres que vous faites, avec les différents objectifs que vous vous fixez.
Absolument.
Et donc, on va parler de votre expo là. Alors, le fait que vous collaboriez, c'est permanent ou c'est juste un coup par-ci, un coup par-là, et chacun vit aussi sa vie technique de son côté?
Alors, on collabore de manière permanente, puisque Anto est un de mes modèles.
Oui. Hein.
J'ai une équipe de modèles avec qui je travaille en permanence, hein, qui s'appelle la Maison Tellier Photographie.
Oui.
Donc c'est vraiment l'équipe qui est une association, une marque déposée aussi.
D'accord.
Hein, voilà, déposée à l'INPI pour être tranquille. Voilà. Et donc on a commencé comme ça avec Anto.
D'accord.
Mais Anto, il est aussi photographe. Et donc je lui ai proposé parce que moi j'ai fait plusieurs expos, mais lui n'avait jamais exposé. Donc je lui ai dit ce serait bien qu'on expose ensemble.
D'accord. Voilà. Et toi, t'es parti comme ça, confiant, parce que justement, t'avais quelqu'un avec qui t'avais confiance.
Ah oui, je l'aurais jamais fait seul. Après, il y a une valeur affective, parce que tout a commencé avec Jérôme.
D'accord.
Donc, en fait, tout s'est construit comme ça. C'est pour ça que j'ai accepté aussi.
D'accord.
Et voilà.
Alors donc, l'expo là dont on parle, c'est Nu et Paradoxe. Déjà, c'est un titre, mais avant de parler du sens réellement de l'exposition, concrètement, matériellement, c'est combien de photos exposées à l'entre-deux, le bar qui se situe 90 rue Lyonnaise?
Alors, c'est une quarantaine de photos, hein, de tout format, de toutes, avec des projets un peu différents. Voilà, donc il y a des toiles, des photos de toiles et des dibons.
Oui.
Il y a des tirages aussi, il y a des encadrés, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment l'état de notre travail à un moment donné.
D'accord. Voilà. Et alors, une exposition là qui a été proposée au courant septembre, là, le vernis. C'était le 12 septembre de mémoire. C'est un travail qui vous a demandé combien de temps et qui est préparé combien de temps à l'avance pour un travail comme celui-ci?
Alors toi, tu vas être plus concret que moi parce que tu es habitué. Moi, j'ai le luxe d'avoir le choix de photos sur plusieurs années.
Mm-hmm.
Jérôme, c'était différent parce qu'il a déjà exposé plusieurs fois. Donc, tu as fait ça sur un temps plus court, toi,
oui, alors,
le shooting.
Alors, au départ, il faut dire que l'expo était prévue au mois de mai.
Oui.
Donc,
et puis,
elle a été décalée à cause
de ce qu'on
sait, du confinement et du Covid, voilà. Qu'on l'a décalée donc avec François, le gérant du bar, en septembre. Donc, moi, j'ai commencé vraiment à travailler sur les photos que je voulais exposer à partir du printemps, en fait. Hein. Vraiment, c'était un projet qui a commencé au printemps.
Et alors, on en arrive maintenant au sens profond du travail que vous avez fait tous les deux et le sens que vous lui avez donné. Nu et paradoxe. Alors, nu, on comprend bien, mais les paradoxes sont où, alors, finalement, quand on regarde l'exposition ?
Alors, le paradoxe, il est d'abord dans le fait que j'ai proposé d'exposer avec un modèle.
Oui.
Donc, et puis aussi parce que dans certaines de nos photos, alors on fait des choses très différentes.
Oui. Hein,
on n'a pas du tout le même style. On travaille pas de la même manière.
Hein, oui.
Mais en même temps, parfois le paradoxe, c'est que dans certaines des photos, pour quelqu'un qui connaît notre travail à l'un et à l'autre, on peut se dire, tiens, ça c'est une photo de GG Photographie, ça c'est une photo de notre Fly Trap, et il se trompe. Il se trompe parce que le paradoxe, c'est que souvent, enfin pas toujours, mais souvent, les photos, en fait, elles sont aussi peut-être de l'autre photographe.
D'accord.
On a voulu un peu aussi, brouiller les pistes et donc faire en sorte que on montre à la fois un travail très différent, mais aussi un travail qui parfois peut se ressembler.
Et dans cet esprit de paradoxe que vous évoquez, est-ce que finalement, vous ne vous apercevez pas avec le temps que l'un influence l'autre et vice-versa ?
Alors ça, je sais pas. Je pense que c'est compliqué à nous de le dire. Ce serait peut-être plus au modèle avec qui on travaille régulièrement, peut-être d'analyser ça un peu plus finement. Mmh. On a quand même notre personnalité propre. Moi, par exemple, j'aime beaucoup travailler les mises en scène.
D'accord.
Les reconstructions de tableaux ou même une mise en scène à partir de scènes mythologiques ou de... Voilà. Ce que Anto ne fait pas du tout, par exemple.
D'accord.
Et Anto est plus... alors, je dirais... un peu barré, hein, quand il fait de la photo, il peut partir.
Le paradoxe,
dans tous les...
c'est là, oui.
Voilà, il peut partir dans tous les sens. Moi, je reste quand même plus réservé, hein, dans mon travail photographique.
Tu as besoin de citer un truc. Voilà, t'as une base historique, t'as une base beaucoup plus culturelle.
Oui,
que moi, je suis dans l'instinctif, l'imaginaire.
D'accord. Je nourris
beaucoup de trucs artistiques, de clips vidéo, de jeux. Voilà, moi, c'est vraiment. Voilà, le paradoxe, il est là aussi, en fait.
Absolument.
Dans nos caractères. À chacun.
D'accord, vous êtes en direct sur Radio G, 101.5, c'est Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers et du Maine-et-Loire. Et tu évoquais à l'instant nos invités nous ont rejoints aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, sont JG Photographie et Anto Fly Trap, nous ont rejoints avec un de leurs modèles, et c'est Sébastien. Alors, justement, Sébastien, j'avais envie de te demander, là, puisque JG était en train de nous dire que ça dépend, il faudrait que les mannequins ou les modèles, plus exactement, puissent dire, eux, par rapport à leur travail, s'ils s'influencent l'un l'autre. Est-ce que toi, en tant que modèle, tu peux dire que le fait qu'ils travaillent ensemble, ils se sont finalement refilés l'un l'autre des habitudes bonnes, mauvaises, et puis ça avance comme ça?
Alors bien évidemment, quand on voit deux artistes qui travaillent ensemble, même s'ils sont deux univers différents, ils vont s'influencer, c'est sûr. Sauf que sachant qu'ils sont vraiment tous les deux sur une improvisation totale, parce qu'en tant que modèle, je vois vraiment la liberté qu'ils me laissent dans, on va dire, un décor, ou dans, que ce soit la nature ou l'intérieur. Et en fait, ça dépend vraiment de l'œil qu'ils portent, ceux qui vont photographier les mêmes modèles. Mmh. D'où le côté vraiment paradoxal qu'on peut comparer, enfin on peut mélanger entre les deux photos, en fait.
D'accord. Alors, toi, tu poses avec ces deux photographes-là depuis combien de temps, approximativement ?
Alors, Jérôme, ça fait 2 ans, et Anthony, ça fait environ 1 mois.
Voilà. D'accord.
On fait un seul shooting.
D'accord. Et alors, on arrive, toi, ton histoire, pour arriver comme ça à la photo, et on va arriver à la question du nu, évidemment. On arrive comment ? C'est-à-dire, quelle étape avec soi-même on franchit ? Quelle réflexion se fait pour accepter de poser nu et de se laisser guider par un photographe ?
Eh bien, on va dire que j'en ai eu beaucoup marre des censures, de tout ce qui était se réprimer, tout ce qui était les tabous.
Oui.
Et on va dire que c'était ma petite part de moi-même qu'il fallait que j'exprime et que je ne savais pas vraiment comment. Donc j'ai réussi à trouver Jérôme, qui m'a amené petit à petit à me laisser aller à nu, sans forcément du coup forcer ni rien, parce que c'est vraiment de la photographie très professionnelle. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pu commencer à vraiment militer pour tout ce qui était un peu les rondeurs, l'acceptation de soi.
D'accord.
Vraiment s'exprimer totalement à travers le nu et à travers du coup l'art que Jérôme me permet d'exprimer, et Anthony aussi.
Parce que dans le mot rondeur que tu exprimes, c'est ton rapport à ton propre corps ou à l'image générale des personnes, des modèles sur les photos qui ne sont pas comme des modèles que l'on peut voir à droite et à gauche fréquemment, voire des acteurs porno qui sont toujours avec 6 tablettes et une carrure à n'en plus finir.
Ben, on va dire que voilà, c'est ça. Dans la maison Tellier, on a vraiment tous des gabarits très différents et on vient de toutes origines différentes. Donc il y a des blancs, des noirs, des gros, des maigres, des grands, des petits. Et justement, le fait qu'ils arrivent à sublimer toutes sortes de corps, ça permet de faire de cette association vraiment un soutien à tout ce qui est, à toutes les personnes qui sont complexées, qui ont du mal avec leur corps, du mal à s'assumer, le mal à s'accepter. Ça leur montre que c'est possible et que du coup, bah, il faut juste apprendre à se lâcher et lâcher prise et avoir confiance.
Alors si on en arrive à la question gay, parce que c'est quand même dans un bar LGBT qu'est l'entre-deux, 90 rue Lyonnais, je le rappelle, à Angers, il y a un regard gay quand même sur la nudité. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de déplacer ce regard, ou est-ce que, même si vous en avez la volonté, il y a toujours un regard qui revient sur un modèle un peu traditionnel, comme l'expliquait Sébastien, mais que votre travail lui permet de le décentrer? Est-ce que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez vis-à-vis de ceux qui vous regardent? Allez, Anto.
Moi, je suis pas convaincu. Moi, je fonctionne dans l'autre sens. Je pense à mon modèle. Et moi, c'est de répondre aux besoins qu'il a.
Oui.
Donc, moi, j'adore shooter plusieurs fois avec la même personne pour construire quelque chose. Donc, moi, je pense plutôt d'abord au modèle et ce qu'on va faire tous les deux. Mm-hmm. Et après, le regard, il y a toujours des variantes, en fait. Il y en a qui vont s'arrêter au nu, il y en a qui vont construire sur la photo, il y en a qui vont mettre de l'imaginaire. Mm-hmm. Donc, moi, je peux pas cibler l'extérieur, en fait. Non, j'ai pas de... Moi, j'estime pas avoir de pouvoir.
Oui.
Je sais tous les regards qu'il va y avoir. On va les prendre. Après, moi, la base, vraiment, c'est de répondre aux besoins du modèle et aux miens, qu'on soit contents tous les deux.
D'accord.
Ouais.
Et toi, Gigi?
Alors, c'est sûr qu'il y a une connotation gay dans les photos qu'on montre, etc., dans le travail qu'on montre. Mais moi, je refuse absolument d'être étiqueté comme un photographe de photo gay. Je fais du nu masculin.
D'accord.
C'est vraiment différent.
C'est ça.
Que, voilà, je me souviendrai toujours, puisque bon, mes Anto étaient présents, j'ai fait une exposition donc à Perpignan, dans un bar à vin qui n'était pas étiqueté spécialement gay. Il y avait toutes sortes de publics. Y a, beaucoup de femmes sont venues visiter l'expo et la première réflexion c'était vous avez de beaux modèles, quel beau mec, quelles belles fesses, etc., mais avec un regard en fait sur le corps masculin qui était vraiment beaucoup plus affiné, beaucoup plus analytique que parfois on peut le sentir dans une expo regardée par des gays.
D'accord.
Et ça, c'était vraiment intéressant.
C'était,
je me souviens d'une discussion avec une dame en particulier, qui posait des questions en fait sur la construction de la photo, le rapport de la nudité entre le modèle et le photographe, comment les choses se passaient. Donc voilà, moi, alors après, je sais évidemment, quand on regarde un petit peu qui regarde nos photos, qui like nos photos sur les réseaux sociaux, que c'est une connotation érotique, souvent, et gay, mais on refuse l'un comme l'autre d'être étiqueté comme photographe gay, parce que c'est pas du tout notre objectif, c'est pas notre démarche.
D'accord. Ouais. Et alors toi, Sébastien, que tu, je suppose, je t'ai aperçu, me semble-t-il, dans l'établissement le jour du vernissage, et toi, est-ce que les gens te repèrent? Est-ce qu'ils viennent discuter avec toi? Est-ce qu'ils te font des remarques intelligentes, moins, quelque chose que tu attends, ou il y a vraiment des choses qui t'ont surprise dans les réactions?
Alors déjà, du fait que je sois jeune et que voilà, dans mon regard, on va dire que j'en impose un petit peu, les gens ont un peu plus de recul quand ils venaient me voir. Et j'ai eu déjà deux mondes très distincts entre les personnes qui vont, je suis jeune, je milite pour mes envies, mes passions, et surtout que la nudité est vraiment en expansion, donc que ce soit de la femme, de l'homme et de même beaucoup des jeunes. Donc il y a eu beaucoup de retours très positifs, donc notamment à Arles, donc à l'exposition qu'on a eue, qui était vraiment énorme, avec vraiment plein de sortes de photographes et de photos, donc de femmes, d'hommes, un peu plus érotiques, moins érotiques. Donc voilà, c'était énorme. Et il y a le côté un peu plus, on va dire, que je n'aime pas, mais c'est pas grave parce que c'est pas eux qui vont me faire arrêter ce que je fais. C'est le regard vraiment, on va dire, entre guillemets, un peu pervers qui est là en mode ah, tu es sexy. Et donc, du coup, je suis en mode oui, je le suis, sauf que je montre autre chose. Donc, si tu n'es pas capable de le voir, ce n'est pas grave. Je vise autre chose que ce que toi tu vois.
D'accord. Mais vous êtes tous conscients que ça déclenche des imaginaires, voire bien des sûr, désirs. Hein.
Totalement.
Absolument.
Vous ne vous racontez pas d'histoire.
Ah, non, on ne va pas
absolument.
Se mentir.
Non, on le sait très bien.
On le sait. Là-dessus, on n'est pas non plus. On n'est ni naïf ni hypocrite.
C'est ça. Hein, voilà.
Mais on accorde de l'importance à dire qu'il y a pas. Voilà. Qu'on travaille autrement aussi, qu'il y a d'autres valeurs artistiques.
D'accord.
Voilà. Et le nu, pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de neutre. C'est un corps. Il n'y a pas plus. Ouais, c'est vraiment la neutralité, moi, qui
la naturalité,
que j'aime dans la photo d'un corps nu. Il n'y a pas d'identification culturelle, il n'y a pas le côté fashionista, voilà. C'est vraiment ça qui est important dans ce nu, c'est ça, cette neutralité quand on prend une photo, d'intégrer un corps dans une photo.
C'est une tenue républicaine, un peu. Hein,
voilà.
On voit comme j'ai ça. J'ai pas osé le dire, mais
là, moi je le dis, voilà, c'est une tenue républicaine.
C'est ça.
Dans un cas, voilà, parce que là, du coup, bah, il n'y a pas de différenciation sociale.
Ah ouais. On est d'accord.
Puis brisons les tabous, quoi.
Voilà, on est d'accord. C'est mais j'en arrive quand même à une question, parce que c'est pas la part la plus intéressante, mais je la pose quand même parce que elle m'est venue, allez, on va dire, en préparant, là, en vous rencontrant et en voyant ça, en disant, est-ce que en étant mannequin, est-ce qu'en étant photographe de nu, on a plus l'occasion de pécho? Est-ce que c'est une activité inconsciemment pour rencontrer, pour avoir des partenaires, ou pas du tout? Ou vraiment, c'est à côté de la plaque, ça?
Alors là, on a peut-être des visions différentes des choses. Moi, je commence à être un vieux monsieur, donc voilà, donc j'ai connu l'époque des dragons et des enfants de la forêt, hein, donc voilà. Mm-hmm. Et alors vraiment, moi, mon travail et ce que je veux présenter n'a pas du tout de rapport avec quelques notions de drague ou de quoi que ce soit.
D'accord.
Vraiment pas.
C'est vraiment déconnecté. Alors, de tout ça.
C'est complètement déconnecté. Je fais du nu masculin parce que ça m'intéresse, parce que je veux travailler sur le corps, je veux représenter des choses, des mises en scène en particulier, etc. Voilà, si un jour je me dis j'ai fait le tour de la question sur le nu masculin, bah, je ferai autre chose.
Hein, d'accord, ok.
Voilà. Mais c'est vraiment pas en rapport avec, on va dire, une quête.
D'accord.
Autre que la photo pour.
Oui, c'est pas une quête sexuelle, perso, c'est pas ce monde-là. Non. Toi, ton approche en tout fly trap.
C'est exactement la même chose, ça reste une base d'envie photographique.
Mm-hmm.
Alors, le seul lien qu'il peut y avoir, c'est cette envie de photographier quelqu'un d'autre qui nous renvoie quelque chose.
D'accord.
Donc, ce qui n'est pas forcément sexuel. Oui. Mais forcément, cette attirance, il y a des gens qu'on a envie de. Avec qui on veut travailler, d'autres qui nous renvoient moins de choses. Des fois, ça se passe et ça se crée quand même.
Oui.
Et c'est le seul lien comme ça qu'on a d'attirance, entre guillemets.
Oui.
Après, non, moi, pour moi aussi, c'est des choses qui sont complètement différentes. Quoi.
D'accord, ok. Mm. Et toi, Sébastien, question inverse, le fait d'être modèle, de rencontrer plein d'autres modèles, d'être même dans une volonté de nudité non sexuelle, mais est-ce que finalement, c'est pas une occasion aussi de rencontre?
Alors c'est totalement une occasion de rencontre, sauf que c'est une rencontre totalement à nu. C'est-à-dire que quand je rencontre les nouveaux modèles que je vois dans la maison l'hôtelier, car je ne les ai pas tous rencontrés encore,
ouais.
En fait, à partir du moment qu'on est nu, on n'a plus rien à se cacher.
D'accord.
Que ce soit les cicatrices, le passé et le présent et ce qu'on veut être plus tard. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir. Et certes, il y a le côté voilà, connotation nue, donc voilà, il y a toujours le petit côté, je suis jeune en plus, donc je vais taquiner des fois, je vais t'as ça là, je vais te faire une fessée, c'est rigolo en fait sur le moment.
Mm-hmm.
Sauf qu'à côté de ça, voilà, il y a vraiment un lien qui se crée au-delà de oui, toi t'es riche, ou alors toi tu viens de cet endroit-là, toi t'es
d'accord.
Ce travail-là, et c'est vraiment agréable.
D'accord, bah, voilà, un téléphone qui sonne, mon Dieu.
Il faut le couper,
envies, hein. Oui, c'est
totalement.
Le mien.
On gravite dans ce milieu amateur, on a quand même à la base cette. Ce même désir de photographie, quoi. La base, elle est vraiment toujours là. En fait.
On est des artistes.
Alors après, c'est vrai que, par exemple, dans les modèles de la maison Tellier, bon, il y en a plusieurs qui, à un moment donné, se sont rencontrés. Je pense à Pierre et Alex, par exemple, qui étaient effectivement mes premiers modèles quand je suis arrivé sur Angers. Et Pierre et Alex, ils se sont rencontrés parce que je les shootais tous les deux individuellement. Et puis un jour, j'ai voulu faire un duo.
Mm-hmm.
Et donc, ils avaient leur vie chacun de leur côté. Et puis, bah, ils se sont. Donc, on a fait plusieurs duos avec eux, etc. Ils se sont plus. Et voilà, donc ils sont. Maintenant, ça fait 4 ans, si je me souviens bien, qu'ils sont ensemble.
Mm-hmm.
Et ils se sont rencontrés parce que j'ai travaillé avec eux à un moment donné que je leur ai proposé un duo. Mais c'est tout à fait conjoncturel.
Voilà. Hein, c'est pas, un cas particulier.
Le but, c'est pas une maison, même si ça s'appelle la maison Tellier, alors c'est un petit clin d'œil,
c'est ça.
Évidemment, à Montpassant, à la nouvelle de Montpassant,
c'est ça.
Bien sûr. Donc, alors, je n'ai pas la prétention d'être une tenancière de bordel comme l'héroïne de Montpassant. C'était vraiment un clin d'œil humoristique. Donc, il y a une famille, hein, c'est devenu une famille, les modèles et les photographes de la maison Tellier photographie, voilà. Donc, une famille où on échange sur plein de choses, on se rencontre et on travaille ensemble. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de travailler, de retravailler avec les mêmes modèles sur des projets différents.
D'accord.
Même si, même si l'équipe évolue, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, comme dans toute famille.
Oui. Hein, voilà. Alors, avant qu'on ne se sépare, on rappelle que l'exposition Nu et Paradoxe que vous signez JG Photographie et Anto Flytrap est à l'entre-deux 90 rue Lyonnaise, qui est un bar LGBT avec François son patron, que l'expo est visible tous les jours sauf le lundi, jour de fermeture du bar, et jusqu'au
1er novembre.
1er novembre, voilà, vous pouvez les découvrir.
Et donc on sort aussi donc le
exact.
Un calendrier. Alors c'est la première fois qu'on sort un calendrier des modèles de la maison Tellier photographie.
Fameux donc, calendrier.
Voilà, qui sort donc le qui va sortir. On va faire un événement d'ailleurs à l'entre-deux pour ça le 17 octobre. Donc évidemment, on vous incite évidemment à acheter ce calendrier.
Et on l'achète sur quoi ?
Alors on pourra l'acheter soit par correspondance sur les réseaux sociaux, soit à l'entre-deux, où on aura aussi des points de. On vous donnera tout ça sur les réseaux sociaux et sur nos sites. Hein, on aura aussi des points de vente. Voilà.
D'accord. Une séance de photos, un shoot bientôt, Sébastien, de prévu ?
Oui, oui. Le week-end prochain. On a un week-end entier de photos, voilà. Encore une fois.
Dehors ? Non, quand même.
Si,
pas.
Ah bah, de toute façon, moi, j'ai aucune pitié pour les hivers.
Les motels, c'est douloureux.
Il faut savoir que Anto peut en témoigner, parce que je l'ai torturé à plusieurs reprises.
Mais il a aimé, puisqu'il a redemandé.
Bah oui, moi, j'aime bien.
Beaucoup de photos en extérieur, et les lumières d'hiver sont les plus belles pour faire de la photo. Donc, même quand il fait 2 degrés, on peut faire du masculin dehors
quand il neige,
pas un souci.
Bon, bah alors
ça pique les, ça rend les joues rouges, quoi.
Ouais, pas que non, les joues, à mon avis.
C'est sûr.
Bon, bah bonne fesse fraîche alors, hein, parce que
merci.
Ça va vraiment être frais. Merci d'être venu jusqu'au micro de Quasar Andier. 20h26, passez une bonne soirée et à tout de suite.
Diogée. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Quasar on the air en ce jeudi soir avec ce titre un peu particulier. Et si vous êtes un petit peu fan de Mylène Farmer, vous devez vous dire que ça ressemble à quelque chose que vous connaissez. Écoutez bien. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, on va le découvrir avec Julien qui est au téléphone. Bonjour Julien. Comment va?
Bonjour Stéphane, bonjour Quasar.
Ah, mais alors, c'est une nouvelle chronique avec Julien qui nous rejoint au téléphone, parce que pour tout dire, on va dire les secrets, tu ne pouvais pas être avec nous.
Non.
Ben voilà, mais on remplace le déplaisir du déplacement par le plaisir de t'avoir au téléphone. Alors, tu connais un peu ce titre-là, là, qu'on entend actuellement?
Ben oui, tout à fait. Donc du coup, c'est la nouvelle chanson que Mylène Farmer vient de sortir à l'occasion de la sortie de son documentaire qui sort tout à l'heure à minuit.
Oui, mais alors
sur Amazon Prime.
Ce titre-là, en fait, c'est pas le sien. On est bien d'accord.
Ben ça, je ne sais pas. Tu me l'apprends.
Ah ben écoute, voilà tout simplement. Alors le titre est d'un groupe qui s'appelle How I Became the Bomb et qui est sorti il y a plusieurs années, 4-5 ans, et qui retrace l'histoire d'un couple d'artistes qui se sont aimés dans les années 70. Il y a d'ailleurs une vidéo que je vous conseille de regarder qui est très 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 émouvante et très touchante et qui en même temps permet de comprendre le travail de l'artiste. Elle s'appelle Marina Ibramovic et qui avait lors d'une séance à la MoMA très exactement qui avait pour titre l'artiste présent, elle s'était assise autour d'une table et chacun des visiteurs pouvait venir se mettre en face d'elle. Et puis la surprise a été, lorsqu'elle avait fermé les yeux entre chaque invité, eh bien c'est que son très ancien amour soit devant elle presque 30 ans après qu'ils se soient séparés sur la muraille de Chine. Et c'est un moment très 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 beau. Mais alors bon, on va parler people maintenant. Julien, dis-nous tout sur les people, sur les gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qu'on va connaître grâce à toi. Alors tu nous as parlé de Mylène Farmer. Et alors donc, qu'est-ce qui sort donc, tu disais, à minuit là?
À minuit, du coup, il y a un documentaire qui retrace le parcours de sa tournée.
D'accord. Et la dernière?
La dernière tournée.
Dernière que tu n'as pas loupée, je suppose?
Évidemment que non. Donc du coup, ça sort à minuit sur Amazon Prime.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actu des people?
Alors, il y a J.K. Rowling qui fait encore parler d'elle. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, J.K. Rowling, c'est l'auteur de Harry Potter. Et en fait, depuis plusieurs mois, elle fait des vagues quant au fait de penser que les personnes trans ne sont pas légitimées dans le genre qu'elle souhaite.
D'accord. Et donc, de ce fait, elle se fait un peu canarder. Donc, c'est pour ça que tu dis qu'il y a ces événements-là. Alors, elle est qualifiée de TERF aussi, c'est ça?
De TERF, oui.
Alors, tu peux nous expliquer ce qu'elle est, ce terme?
Donc, en fait, TERF, ce sont les féministes, entre guillemets, je mets de gros guillemets à ça. Du coup, ce sont les personnes qui se disent féministes, mais qui n'incluent pas les personnes transsexuelles.
D'accord. Alors, toutes les féministes ne sont pas TERF, hein, on le précise bien.
Exactement, non, bien sûr.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouvelle chez les gens qu'on connaît ou qu'on va découvrir?
Alors du coup, moi, il y a quelques jours, j'ai regardé la nouvelle série de Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy, c'est un réalisateur gay, hein, donc à qui on doit American Horror Story, mm-hmm. à qui on doit il y en a tellement. Pose aussi, Pose, oui. Qui est un grand classique. Et du coup, il y a une nouvelle série qui s'appelle Ratched, qui vient de sortir.
Et qu'on conseille véritablement, en tout cas, qu'il faut surveiller sur la plateforme.
Ouais, c'est pas mal, c'est même très bien. Bon, l'esthétique, c'est du grand Ryan Murphy, hein, l'esthétique est très jolie. Après, pour moi, voilà, chacun est libre de faire son avis.
Ben oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une autre actu? Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est... Mais alors vraiment emplafonner un arbre, je me trompe?
Ouais, donc c'est Tristan Lopin du coup. Donc Tristan Lopin qui est censé entamer la tournée ce soir. Du coup, il s'est mangé un arbre et il est sacrément amoché, mais il va bien.
Alors ce qui est drôle.
Il sera à Nantes du coup du 1er au 3 octobre, mais c'est complet.
Ce qui est vraiment très drôle avec Tristan Lopin, donc déjà il fait plein de vidéos, plein de petits sketchs avec des personnages qu'il sait parfaitement camper, mais ce qui est vraiment d'une intelligence folle, c'est que ce garçon a su faire de son accident un moment plutôt marrant, quoi. On est d'accord. On vous conseille d'aller le voir particulièrement. Eh bien, grand merci. Est-ce que tu as encore un dernier sujet, peut-être, ou pas?
Sur les people, non, pas non. Forcément.
Alors on se dit à dans 15 jours, on espère, pour avoir d'autres nouvelles. Et puis comme on t'aime, eh bien on ne te laisse pas partir sans te faire un cadeau. Tu vois ce que je veux dire?
C'est celui-là. Mignon.
Voilà. On t'embrasse, Julien. Ciao. Bye. Et voici, non pas l'original, mais le titre d'aujourd'hui. Mylène Farmer, L'âme dans l'eau.
L'air est lourd de ton absence, l'air est sourd. Nos sentiments, l'air est court et mon manque de toi, toi mon autre moi, tu vois, j'ai l'âme dans l'eau. Si les songes ont des portes qui me mènent là à tes côtés, long et droit, j'ai dû traverser aux douleurs car nul ne sait, j'ai l'âme dans l'eau. D'où le souffle, nos mains qui s'effleurent. J'ai l'âme dans l'eau, j'ai l'âme dans l'eau. L'air est lourd de ton absence, l'air est sourd à mes sentiments. L'ange au ciel murmura je t'aime dans un ultime essentiel. J'ai l'âme dans l'eau.
J'ai l'âme dans l'eau, j'ai l'âme dans l'eau. Radio G. 101.5 FM.
Quasar on the air, vous êtes bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est l'émission bimensuelle de Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers. Et puis, nous retrouvons au téléphone dans notre programme qui fait pléthore de place aux autres associations que nous connaissons bien. On va parler avec Sophie qui est en ligne. Bonjour Sophie.
Bonsoir.
Alors Sophie, on explique, tu es la présidente du centre LGBT de Vendée et donc tu nous appelles depuis La Roche-sur-Yon et vous organisez une Pride le 10 octobre. Explique-nous un peu.
Eh bien, en fait, c'est la première, hein, parce que c'est assez historique, parce qu'en Vendée, organiser une marche des fiertés, c'est quelque chose quand même. Hein. Et puis, on a vraiment beaucoup de gens qui sont très, très contents qu'elle se fasse, quoi, qui ont hâte qu'elle se réalise. Donc, on sent qu'il y a un besoin en Vendée d'afficher sa fierté, d'être LGBT, voilà.
Alors, on rappelle quand même qu'il y a une actualité et pourquoi cette marche existe.
Alors, cette marche, c'est, en fait, on l'a voulu la faire en réponse à une autre marche qui, elle, était agressive et qui s'est déroulée l'année dernière lors de notre village associatif comme tous les ans on organise dans le cadre de la journée IDAO. Donc le 18 mai 2019, eh bien, alors qu'on allait fermer notre village associatif sur la place Napoléon, eh bien, une vingtaine de jeunes étudiants de l'ICES, donc l'ICES c'est un institut catholique supérieur, et qui est sur la Roche-sur-Yon, et ils ont dévalé, en fait, je sais pas, sur notre village, renversant des grilles d'exposition, volant un drapeau, bousculant violemment des gens du stand, et du coup ça a été il y a des bénévoles qui ont filmé la scène, donc cette vidéo on l'a mis en ligne, donc elle a fait le tour du monde, hein, je pense beaucoup de gens l'ont vu, et ça a amené à un procès qui a eu lieu,
voilà, c'est en première instance,
procès, voilà. L'année dernière,
et un appel
là le 10 juin, et le verdict, ça a été une catastrophe, parce que ils sont repartis avec rien, quoi. Les prévenus
ont été acquittés,
quelques amendes, voilà, pour les coups et blessures, mais c'est tout, et le vol du drapeau.
D'accord. Alors, le 10 octobre, en réaction à tout ça et pour marcher fièrement, vous faites quoi très exactement, alors, dans La Roche? Vous avez prévu quoi?
Alors, c'est un peu particulier, parce qu'avec le contexte de la pandémie, donc on fait quelque chose vraiment de très simple. On va partir de la place Napoléon, il y aura un petit discours, et ensuite la marche va commencer. On fait vraiment tout le tour de la Roche-sur-Yon, on fait 5 kilomètres, donc on axe vraiment sur la marche. Il n'y aura pas de village associatif, donc cause pandémie. La marche, il n'y aura pas de char non plus. Il y aura, on va avoir des vélos, en fait, des vélos avec deux vélos sonos avec, d'accord, donc une sono derrière pour un petit peu de musique, et puis un grand drapeau quand même qu'on a réussi à faire faire juste avant le confinement. Et puis il y aura aussi un vélo qui va avoir une petite remorque, et dessus on va faire une statue.
Donc, très bien, alors ça faut pas trop le dire, on va découvrir quand on va venir le 10 octobre à La Roche-sur-Yon, on est d'accord?
Voilà,
c'est ça.
Voilà.
Et pour finir, Sophie, le mot d'ordre de cette marche?
Eh bien, le mot d'ordre, c'est on est là, on est fiers, et il faut vous y faire, voilà, c'est ça, hein, parce que ils veulent qu'on retourne à notre placard, et ben non, pas du tout, C'est vraiment ça. On va pas retourner dans notre placard. Ça risque pas. Voilà.
C'est très bien. On vous embrasse très fort à La Roche-sur-Yon. On pense bien à vous, Sophie. La grosse bise.
Merci.
Et on se dit à bientôt.
Venez, hein. J'invite tout le monde à venir à La Roche-sur-Yon le 10 octobre. Hein.
Ça marche. Grosse bise. À bientôt. Mmh. Au revoir.
À bientôt. Au revoir. Bisous.
T'es toute nue sous ton poule. Y'a la roue qui est ma jolie môme.
Dans quelques instants, nous allons rendre hommage à Juliette Gréco. Mais auparavant, tiens donc, Drelin, un invité. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Alors tu nous rejoins là maintenant au micro de Quasar on the Air pour un temps vraiment spécial pour parler de l'APGL. Dis-nous, qu'est-ce que l'APGL ?
Donc l'APGL, c'est donc l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Voilà, donc on est une association nationale avec des antennes départementales. Et donc moi je suis le responsable de la petite antenne angevine. Donc on accueille des femmes et des hommes qui sont soit parents, mm-hmm. ou soit qui ont des projets pour créer une famille.
D'accord. Et vous êtes combien approximativement, vraiment ?
Alors, au niveau des adhérents, on est à peine une vingtaine, en fait.
D'accord, ok. Et c'est par département ou par région que vous vous organisez, fait, hein, c'est ça ?
Exactement.
Donc là, vous allez organiser votre rentrée, finalement. Et alors, c'est quand ce temps que vous prévoyez ?
Alors, c'est vrai que là, comme pour tout le monde, à cause du Covid, toutes nos réunions de l'année, quasiment, ont sauté. Alors, c'est pas quasiment, elles ont toutes sauté. Et donc, on propose une après-midi, mais pas ouverte qu'aux adhérents, elle est ouverte à toutes les personnes qui ont un projet.
Projet parental.
Soit qui sont parents et qui veulent venir en discuter, qui ont des difficultés ou pas. Et pour tous ceux qui ont des projets, donc on se propose de se rencontrer au bar L'Entre-deux le dimanche 4 octobre à 17h30.
D'accord, donc le 4 à L'Entre-deux. Tiens donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, 90.
Donc, dans la salle. Exactement, et à la salle à l'étage. Donc merci beaucoup à François qui va nous accueillir.
C'est ça.
Et donc on va pouvoir être peinard à l'étage pour discuter. Et notamment, on peut imaginer, on a aujourd'hui des femmes qui souhaitent être maman par PMA.
Voilà.
Qui espéraient que la loi passe, n'est-ce pas ? Mais comme la loi n'est pas prête de passer,
alors justement,
qui se tournent déjà encore actuellement vers l'Espagne.
C'est ça.
Donc ils
la
posent
Belgique,
des questions, l'Espagne, la Belgique,
l'Amsterdam aussi un peu, non ?
C'est essentiellement l'Espagne et la Belgique.
La Belgique, d'accord, sur l'Anjou. PMA, on en parle. On vient d'apprendre que là, très probablement, pas avant début 2021 et encore, on ne sait pas trop exactement quand le Sénat va examiner la loi. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que toutes les personnes, les hommes et les femmes trans ne sont pas reconnus et pris en compte.
Pas du tout.
Et que les personnes intersexes, le gouvernement n'en a pas profité pour interdire toutes les mutilations sur les nouveau-nés. En gros, c'est les gros griefs qui sont faits actuellement sur cette loi.
Oui, ce que rappeler effectivement que la loi ne parle pas que de la PMA, mais c'est une loi beaucoup plus large autour de la bioéthique en général.
La bioéthique, d'accord. Donc tout le monde se porte. Les bébés vont bien, en fait ?
Les bébés vont bien.
Ah.
Hein. Certains sont évidemment sur le département, plus des bébés, hein, sont en âge d'avoir des enfants.
D'accord.
Hein, puisque la progression médicalement assistée était quand même relativement ancienne en France et a été utilisée quand même depuis longtemps.
Bon, et un jour, il faudra qu'on fasse une photo de famille quand même. Hein.
N'est-ce pas ?
Hein ? Bon, on te remercie beaucoup, Gaël, d'être venu nous faire part de ce temps, là, le dimanche.
N'hésitez pas, dimanche 4 octobre. Hein,
voilà, venez. 17h30 pour les parents et futurs parents gays, lesbiennes.
Et trans.
Et trans aussi, effectivement, oui.
Radio G, 101.5 FM. Walking in the
midnight sun. Alors, invité aujourd'hui aussi du micro de Quasar The News, c'est Archie. Bonjour, Archie.
Bonjour.
Alors bonjour, pourquoi tu ne... Bah c'est le blanc. Ah pardon, voilà, il est là. Redis bonjour.
Bonjour.
Ah il y en a 5, c'est tout, voilà, c'est pour ça que je me trompe. Si on se trompe entre le 4 et le 5, ça ne va pas fonctionner. Alors Archie, tu viens nous parler de l'actualité trans et particulièrement de la question des mineurs trans, puisqu'il se trouve que Quasar en accueille de plus en plus en cette rentrée.
Oui, exactement, et on a deux événements d'ailleurs liés à cette problématique, parce que on se rend compte que les mineurs sont laissés pour compte dans la transidentité, mais aussi leurs parents. Et donc on s'est dit que bah va falloir prendre en compte toutes ces petites personnes là. Et donc le 10 octobre on a une première un premier groupe de parole le soir pour accueillir les parents qui se posent des questions et puis aussi qui aimeraient mieux se projeter sur la transidentité de leur enfant. Et puis comme tous les mois, on a notre groupe de parole pour les personnes trans qu'elles soient mineures ou majeures d'ailleurs, qui est donc le samedi 12 octobre. Et là, c'est ouvert donc à tout le monde.
Non, le samedi 10, pardon.
Le samedi 10 ?
Oui, c'est le samedi 10. Et samedi 10.
Oui, voilà, c'est ça. Samedi, ah, samedi
parce
10.
Que justement, il faut qu'on parle du 12.
Et
quand
lundi
même.
12, alors voilà, j'ai voilà, c'est inversé ça. Les deux dates. Donc c'est bien, le samedi 10 pour les personnes trans et le samedi 12 pour les parents voilà. des mineurs trans.
Alors tu peux expliquer pourquoi les parents, spécifiquement rien que les parents.
Pour libérer la parole tout simplement, parce que c'est pas forcément évident de parler devant son enfant, devant ses enfants. On n'a pas les mêmes mots avec une personne tierce quand on se pose des questions voilà, sur la transidentité, etc. Donc c'est vraiment pour permettre aux parents de tout poser sur leur monothérapie, sur les chirurgies, sur que vont vivre les enfants dans les établissements scolaires, mais aussi avec leurs amis, et puis comment traiter ça en famille. C'est toutes ces questions-là. Et puis qu'entre parents, ça semblait essentiel pour établir un meilleur climat de confiance et de libération.
D'accord. Alors quand on dit parents, ça peut être les parents, les frères, les sœurs aussi. Enfin, c'est-à-dire toute la famille en dehors de la personne trans concernée, non pas parce qu'on ne veut pas s'intéresser à elle, mais justement, comme tu le disais, pour libérer une parole et qu'ensuite ça puisse produire un échange familial. C'est ça l'idée.
Exactement, exactement. Oui, on accepte tous les membres de la famille. Il n'y a pas de restriction là-dessus.
Alors, les enfants mineurs, comment est-ce que ça se passe pour eux en 2-3 minutes? Comment est-ce qu'on arrive à les accueillir? Et puis, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les reçoit en fonction de leurs demandes?
Alors, les mineurs trans, c'est très compliqué en France. Il y a déjà cette idée que la transidentité, c'est lié à l'âge et que donc ça concerne que les personnes majeures, alors que, eh bien, malgré ça, non. La transidentité, on est trans et l'âge rentre en compte dans la transidentité par rapport à la découverte de cette transidentité. Et cet âge de découverte, de coming out, varie en fonction du pays où on est, de la culture et des clés en fait qu'on donne aux mineurs pour s'identifier le plus tôt possible. Donc avant de parler de plus en détail de ce qui attend les mineurs France, les mineurs trans en France, on va parler de ce qui se passe à l'étranger parce que il y a plus de progrès et de modèles à suivre encore chez nos voisins européens. On en parlait tout à l'heure, les Pays-Bas, ils sont à la pointe depuis au moins 7 ans parce qu'on peut déjà retrouver des articles de presse concernant leur monothérapie des mineurs trans dès leur plus jeune âge. Ça peut être par exemple 5 ans, ils peuvent se déclarer trans eux-mêmes, les parents sont informés, ils sont renseignés sur la question, les professeurs, toutes les personnes que les enfants vont côtoyer sont aussi renseignés sur la transidentité, et donc il y a tout un cadre social qui aide cet enfant à transitionner plus vite. Il y a moins de discrimination là-bas, et puis évidemment les bloqueurs d'hormones pour les mineurs et les hormones pour les mineurs de plus de 16 ans sont accessibles depuis au moins 2013 aux Pays-Bas. En France, comment ça se passe? Eh bien, il y a plus de bonnes nouvelles que prévues sur le côté juridique. En revanche, sur le côté médical, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on va commencer par les bonnes nouvelles. Pour tout ce qui est état civil, c'est très simple à trouver. Même sur le site du gouvernement et sur servicepublic.fr, on peut trouver déjà des documents. Par exemple, avec la loi de la modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016, déjà une indication sur comment changer de prénom quand on est mineur sur notre carte d'identité. Donc, il faut que tous les responsables légaux soient d'accord. Et il faut les documents, comme pour les personnes cis souhaitant changer leur prénom, c'est-à-dire des témoignages du fait qu'on utilise ce prénom, sa carte d'identité et une preuve du domicile où on vit. Pour le genre, c'est plus nuancé parce qu'on a l'article 61-5 et 61-6 du Code civil qui parlent du changement de genre sur la carte d'identité des mineurs émancipés. Et c'est là tout la nuance, c'est qu'on ne parle pas du tout des mineurs ou encore des adultes sous tutelle. Donc ça reste flou là-dessus. On ne sait pas comment on peut encore agir concernant les papiers. Pour le médical, c'est encore plus flou que ce que j'ai cité précédemment concernant le genre. Il n'y a tout simplement pas de loi, pas de texte médicaux français sur la question. Ça n'existe pas. Donc, que fait la France quand un cas comme ça se présente chez un médecin, chez un généraliste ou un endocrinologue pédiatrique? En fait, ils suivent des études internationales, donc rédigées par nos voisins, qui servent en fait de directives ou de modèles à suivre, et c'est tout ce qu'on a. Et donc, il y a par exemple le rapport de la WPATH, qui est la World Professional Association for Transgender Health, désolé pour l'accent, donc qui a été rédigé en 2013 et qui est donc dans sa traduction un standard de soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non conformé. Donc ça, c'est la traduction officielle, les termes qu'ils utilisent officiellement dans ce rapport. Et donc ces directives, c'est que grâce au simple critère de la revendication du mineur de sa transidentité et des accords des responsables légaux, la France devrait, suivant ces directives, pouvoir donner des bloqueurs d'hormones aux mineurs entre 8 et 12 ans et débloquer les hormones que ces mineurs souhaitent entre 15 et 16 ans. Mais encore une fois, ça reste un peu à la tambouille des médecins et en attente de textes officiels français.
Bon, un grand merci Archie de tout ce travail-là, et tu reviendras nous reparler d'autres conditions pour les personnes trans. En tout cas, on compte sur toi, hein, c'est sûr et certain.
T'es toute nue sous ton poule.
Comme je vous le disais sur Quasar Anzière, Radio G 101.5 Angers, et nous allons rendre hommage à Juliette Gréco et nous avons au téléphone un journaliste, Xavier Hérault. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, on explique, Xavier, qu'on t'a demandé d'intervenir sur les dernières minutes de l'émission pour rendre hommage à Juliette Gréco et surtout évoquer avec nous l'interview qu'elle t'avait donnée en octobre 2009 pour YAG à l'époque, avec ce fameux titre « Il faut se battre, l'homosexualité n'est pas vraiment reconnue, ce sont des mensonges ». Quel souvenir tu as de cette actrice, chanteuse? Quelle impression elle t'avait laissée?
Alors, il y a deux impressions. Déjà, je l'ai vue sur scène, c'était incroyable. C'est la plus grande interprète que j'ai jamais vue, honnêtement. C'est quelqu'un qui interprète les chansons, mais d'une manière totale. Il faut vraiment le voir pour comprendre. Et ensuite, en interview, ça fait 20 ans que je fais ce métier. C'est l'interview dont je me souviens mieux. Déjà, je pense que c'est la seule interview où la personne a commencé par m'interviewer moi-même, en disant, oh, moi, les questions, ça me fatigue. J'aime bien poser des questions aux gens, j'aime bien échanger. Donc, elle m'a posé plein de questions sur moi. On a parlé de ma grand-mère, on a parlé de plein de choses. Et puis après, en fait, c'est quand même quelqu'un, j'ai rencontré, elle avait plus de 80 ans, qui a donné, je pense, des centaines, peut-être des milliers d'interviews dans sa vie, et elle arrivait à garder une espèce de spontanéité. Souvent, les interviews, bon, même en tant que journaliste, quand on interroge des gens qu'on admire, on a un peu le syndrome du fan, mais là, oui, parfois, c'est plus du boulot, et là, il y avait un truc un peu spécial, elle avait une espèce de spontanéité. Toujours, à un moment donné, je vais parler de Miles Davis, qui était un de ses compagnons, etc., il y avait ses yeux ont brillé d'une telle manière, c'était quelqu'un qui bizarrement arrivait à donner l'impression de ne pas être blasé alors qu'elle était en train de faire un exercice qu'elle avait fait à peu près 1000 fois avant moi.
Tu lui as parlé de Judy Garland et puis aussi tu lui as posé la question des marches, et alors elle avait cette réponse bien particulière, j'y suis allé bien avant. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là?
Je pense qu'elle voulait dire qu'elle y allait dans les années 70, en fait, quand les marches n'étaient pas très installées, qu'il n'y avait pas un peu une gay pride officielle, quand c'était un peu les trucs du phare, etc. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire.
Donc tu as passé un vraiment bon, très bon moment avec cet artiste qui vient de mourir à 93 ans, à Ramatuelle. Ouais. Et donc, on peut trouver ton interview encore en ligne sur Comitid, puisque Comitid a repris les archives de YAG pour ce site pour lequel tu travaillais. On est d'accord?
Oui, c'est ça, absolument.
Et on rappelle aujourd'hui que toi, Xavier Hérault, tu es journaliste pigiste, tu es un ancien de Tétu, qui retravaille pour Tétu, qui travaille pour Comitid et pour Ornette aussi. Tu es multicarte, quoi, finalement.
Comment?
Tu es multicarte?
Eh ben, quand t'es pigiste, tu es obligé.
Oui, évidemment.
Moi, j'aimerais bien que t'aies un seul site qui me fournisse l'essentiel de mes revenus.
On est bien d'accord. Bon, on te remercie beaucoup d'avoir consacré quelques minutes pour nous parler de Juliette Gréco sur Quasar Anzière. On te souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation. Salut, Xavier.
Merci beaucoup.
Bye.
Au revoir.
T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu joli môme. Une porte en voile blanc que l'on pousse.
Juliette Gréco, donc, la jolie môme non-stop. On vous souhaite une très 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 belle soirée sur Radio G. Allez, on se donne rendez-vous dans exactement 15 jours pour un nouveau numéro de Quasar on the Air. Bye bye et place au blues.
Yes.